Vous pourriez dire, hey, Jean, de la force du monde. Vous vous rendez compte? Impressionnant. Son dernier roman paru en France, c'est le Fleuve des Dieux. Il est considéré au Royaume-Uni ainsi qu'aux États-Unis comme le roman de science-fiction le plus important des 15 dernières années. On lui trise donc des lauriers, on le couronne de prix également. Le prix British Science Fiction, pardonnez-moi mon accent, en 2004 pour La Rivière des Dieux, en 2007 pour Brésil, en 2010 pour The Dervish House, et il a reçu le Grand Prix d'Imaginaire 2011 pour Le Fleuve des Dieux, 2011, Prix d'Imaginaire, c'est à Saint-Malo. Il a publié dans sa langue un recueil de nouvelles intitulé Cyberabad Days, qui comporte des suites et des clés au roman que je viens d'évoquer. Il sera traduit en France en 2013. Il y développe des idées sur les nanotechnologies, sur le concept d'infosphère, et plus largement, il y examine les interactions entre progrès technologique et aspects économiques, sociaux et religieux. Gérard Klein, il est éditeur, il est directeur de la collection Ailleurs et Demain des éditions Robert Laffont, ainsi que de la collection science-fiction du Livre de Poche. Il est écrivain, il a brouillé beaucoup de cartes, il a joué avec des pseudonymes, Gilles Dargir, François Pagerie en collaboration, Luc Vigan qui a repris, on ne sait peut-être pas tout d'ailleurs. Les spécialistes disent qu'on lui doit ce que la science-fiction française a produit de plus poétique, et on va avoir une petite démonstration avec un paragraphe tout à l'heure, vous allez voir, c'est magnifique. C'est un boulimique, et donc il est aussi philosophe, féru de science, psychologue, social, économiste, prospectiviste. Et alors, ce qu'il faut rappeler ici, parce que c'est dans le cœur de notre sujet, c'est qu'en 1961, en publiant chez Fleu Noir ce qui s'appelait à l'époque un roman d'anticipation, qu'il a intitulé Les Voyers du Soleil, Gilles Dargir a inventé la propulsion solaire en SF. Et ce qui est fascinant, c'est que le 20 janvier de cette année, Gérard Klein, à partir du microsatellite FastSat, on a déployé une voile solaire, NanoSail D2, et on verra pourquoi faire. David Morin-Hulman, il va nous aider, vous allez voir, sur un terrain assez intéressant. Il a fait des études de droit public, de philosophie de la technique, il a un doctorat en sociologie de la culture. C'est un enseignant-chercheur qui opère à Nantes, à Angers, à Orléans, qui collabore avec une unité mixte de recherche d'Avignon. Et il travaille, je vais le dire assez mal parce que je vais le dire sommairement, sur tout ce qui sort de l'imaginaire, véritablement tout, le lumineux, le propre, le cochon aussi, bon. Et il effectue des recherches sur un sujet capital pour nous, les superstructures de l'imaginaire. Inutile de dire qu'on espère qu'il va nous aider à comprendre comment l'imagination peut à la fois produire de la science et de la fiction, et comment l'une et l'autre peuvent se répondre, se compléter, et parfois faire la course entre elles. Parce que on a commencé à le comprendre, c'est ce qui se passe. L'homme par lequel nous allons commencer, qui est Roland Lehoucq, il est, lui, assez étonnant, vous allez le voir tout de suite. D'abord, il est astrophysicien au commissariat à l'énergie atomique de Saclay. Il travaille sur la topologie cosmique, c'est-à-dire l'étude du lieu-espace. C'est une branche des maths, hein, tout simplement. Ah, tout simplement. Voilà. À ce sujet, il a publié en 2002 chez Flammarion un livre intitulé « L'univers a-t-il une forme ?». Il est agrégé de physique, ancien élève de l'École normale supérieure de la rue d'Ulm, et il donne des travaux dirigés à l'École polytechnique dans le cours de relativité restreinte et dans celui de physique nucléaire. Mais il publie également des livres de vulgarisation scientifique, de véritables exercices de style, parce qu'ils utilisent des ouvrages de fiction pour parler de science véritable. Et on peut parler de « Faire de la science avec Star Wars », écrit pour les besoins d'une exposition à la Cité des sciences. Et puis, peut-être plus provoquant encore, « D'où viennent les pouvoirs de Superman ?» ou « Physique ordinaire d'un super-héros ». Sans compter l'ouvrage écrit avec Robert Moscovitch et qui vérifie la validité scientifique des aventures de Tintin et Milou à travers les albums « Le Temple du Soleil »,« L'Objectif Lune »,« Un marché sur la Lune » et « L'Étoile mystérieuse ». Alors, Roland Lehoucq, votre talent dans l'histoire, c'est de faire en sorte que même si on a affaire à de la pseudo-science ou à quelque chose qui n'a rien à voir avec la science, vous arrivez quand même à partir de là pour mener des raisonnements scientifiques, juste poser un questionnement et puis commencer à élaborer des raisonnements scientifiques et puis après apporter des réponses scientifiques.
Oui, c'est-à-dire que...
Donc c'est assez simple finalement, tout le monde peut le faire presque.
Exactement, c'est-à-dire ça revient à montrer que finalement tout le monde peut faire de la recherche scientifique. En fait, quand on voit des œuvres de science-fiction, évidemment, peu de gens sont dupes et peu de gens croient que ce qu'ils voient est la réalité ou c'est juste faisable ou que ça a été réalisé ou même que ça sera réalisé dans un futur plus ou moins proche. Il y a des fois des choses sont tellement extraordinaires qu'elles en deviennent impossibles, si je veux dire. Enfin, impossibles en tout cas pour l'instant ou très difficiles pour l'instant. Donc dire simplement c'est juste ce que l'on voit scientifiquement ou c'est faux, ça n'a guère d'intérêt parce que la réponse est souvent c'est faux pour des arguments de physique très simples souvent, assez simples souvent. Et donc ça n'a aucun intérêt. En revanche, ce qui est plus intéressant, c'est de se poser deux sortes de questions. La première, c'est ce que je vois, c'est quand même super. Comment je pourrais le faire en vrai ? J'essaie vraiment d'expliciter une façon plausible de réaliser ce que je vois. Ce n'est pas toujours possible, parce que les choses extraordinaires que l'on voit sont des fois extraordinairement compliquées aussi à mettre en place. Donc, je ne sais pas, voyager en moins de 3 minutes de votre propre temps d'une étoile à une autre, par exemple, il n'y en a pas de moyen de penser ça. En revanche, imaginez un truc qui ressemble à un sabre laser et qui en a les effets, ça ne sera pas un sabre laser, ça ressemblera à un sabre laser. Donc voilà, on peut, certains de ces objets scientifiques, ces objets techniques ou de ces gadgets que l'on voit dans les films de SF ou dans les œuvres de SF, on peut se demander comment je les ferai plausiblement avec la science moderne, avec la science actuelle. Et la deuxième sorte de question qu'on peut se poser, c'est une sorte de, c'est là où ça rejoint la recherche scientifique, c'est mener une investigation finalement sur les mondes qu'on nous montre. Parfois, assez souvent malgré tout, il y a une certaine cohérence interne dans le monde. L'auteur, et bien sûr, il a un peu tordu le cou à la réalité ou à la vérité scientifique par moment.
Mais au moins, mais il est resté cohérent.
Il a voulu faire une œuvre cohérente quand même, partir d'un fond scientifique, d'un substrat souvent existant, qu'il a éventuellement transformé, dilaté, développé à un point tel que ça en devient plus très réaliste. Mais il est parti d'un fond existant, il a voulu une cohérence. Et on peut, en analysant ce qu'on voit dans les œuvres, en essayer de découvrir des choses qui ne nous sont pas données a priori, y compris des choses que l'auteur ou le réalisateur, si c'est un film, n'a pas pensé mettre ou n'a pas voulu mettre dans son film. Par exemple, si on regarde, je reprends Star Wars parce que c'est quand même assez emblématique de ce point de vue-là, on peut déterminer soit la puissance délivrée par un sabre laser, mettre un nombre, mesurer à l'aide des images du film quelle puissance dégage un sabre laser. La réponse, c'est à peu près entre 3 et 5 centrales nucléaires qui tiennent dans un machin qui est gros comme ce micro. Donc, ça vous dit à quel point c'est impossible, d'une certaine façon, mais on peut faire l'enquête.
Pour l'instant.
Et ce qui est intéressant, c'est l'enquête, plus que dire ça ne marche pas, ça n'a aucune importance. Ou l'on peut déterminer la taille, par exemple, la dimension de l'étoile de la mort, uniquement en regardant les images. Et ça se compare à la démarche d'un scientifique, et même précisément d'un ou d'une astrophysicienne, d'un astrophysicien ou d'une astrophysicienne qui observe le ciel, l'astrophysicien idéal observe le ciel avec son télescope, et de ses observations, il reconstruit une représentation plausible de ce qu'il observe, compatible donc avec ses observations et la physique actuelle.
Ce que vous nous expliquez en d'autres termes, c'est de dire l'auteur, il a posé un postulat qui n'a rien à voir avec les postulats de la science actuelle, et après il reste cohérent parce qu'il a malgré tout une cohérence, une logique de l'esprit.
Exactement, son œuvre est cohérente. Éventuellement, on n'a pas les mêmes postulats de départ que la physique actuelle, mais pour certains, il y a un ensemble de postulats qui sont cohérents avec notre monde. Quand Hergé fait Tintin, il fait pas un monde extraterrestre. Donc lui, implicitement, les lois de son monde sont les lois d'une autre. Dans Star Wars, ou dans d'autres œuvres,
dans Superman,
ou dans Avatar, si on prend un blockbuster encore
aussi.
Plus récent, dans Avatar, il reste cohérent avec notre. Il n'y a pas de physique extraterrestre. C'est extraterrestre par l'image qui est procurée, par l'ambiance qui est donnée, par le ton qui est donné, mais ça n'est pas extraterrestre, par les lois de physique ou les lois de science qui sont utilisées pour réaliser l'œuvre. Et donc du coup, en utilisant nos lois qui sont ces lois, on peut essayer de trouver des choses, des informations qui ne sont pas données a priori.
En fait, l'essentiel de votre travail de vulgarisateur, c'est de montrer comment deux postulats dont l'un est faux et dont les autres sont vérifiés en l'état actuel de nos connaissances, peuvent, en tordant le premier qui est faux, réussir à fournir des solutions. Vous devriez être conseiller scientifique de films de science-fiction, au fond.
Oui, je me ferais plaisir de faire ça une fois. Je suis pas sûr que ça soit toujours très
non,
efficace.
Non, pas longtemps, mais une fois.
Mais voilà, l'idée, c'est ça. Okay. C'est vraiment de parler de science avec comme prétexte ces films de fiction.
Parfait.
Et ces films de fiction, évidemment, ils ne font pas œuvre scientifique. Ils sont là pour divertir, évidemment, pour être esthétique.
Oui, voir. Alors, Gérard Klein, vous, quand en 61, vous sortez cette histoire de propulsion solaire, c'est quoi ? Comment vient l'idée ? Expliquez-nous ça un petit peu. Est-ce que c'est un postulat que vous posez sur des bases qui sont quand même scientifiques ou est-ce que c'est pure imagination de votre part ? Attendez, parce que votre micro ne fonctionne pas. Oui, ça fonctionne.
D'abord, je ne suis pas l'inventeur du concept. Il a été inventé par des ingénieurs en 60 ou 61, en effet. J'ai été, semble-t-il, le premier... Le premier à l'avoir utilisé dans un roman de science-fiction. Ce qui n'est pas tout à fait la même chose. Alors, il y a un autre auteur de science-fiction qui l'a utilisé à peu près en même temps. Je ne sais pas si c'est pas Cordonnier Smith, je ne suis pas sûr.
Smith, oui, mais...
Mais, à mon avis, quelques semaines après.
Oui. Donc, vous vous êtes dit, on est ex aequo. Allez, on n'a pas chipoté, on est ex aequo.
Non. Alors, ce que je voudrais introduire ici, c'est l'idée que non seulement la science-fiction peut servir à une réflexion du grand public, en tout cas de ses lecteurs sur la science, mais qu'il arrive, en tout cas ça relève de mon expérience personnelle, qu'elle modifie en partie à leur insu le point de vue des scientifiques eux-mêmes. Quand j'étais très jeune, je passais de temps en temps la télévision. Rassurez-vous, aujourd'hui, ça vous sera épargné. Enfin, je passais de temps en temps la télévision et avec des scientifiques qui étaient absolument ulcérés de se trouver à côté d'un auteur de science-fiction qui disait, bon, tout ça, c'est des foutaises. Enfin, c'est une honte et un scandale qu'on propose ça au public. Les auteurs de science-fiction nous font une concurrence déloyale en promettant la Lune, si j'ose dire, etc. C'était dans les années 60. Or, à cette époque précisément, l'idée qu'il y ait de la vie ailleurs dans l'univers était sauvagement combattue par tous les scientifiques, astronomes, biologistes, etc., ce que je pouvais rencontrer sur ces plateaux. Et puis, une génération plus tard, j'ai rencontré un certain nombre de gens. Je pense à mon ami Jean-Pierre Luminet ou à un ami Jean Audouze, enfin, etc. Et puis, à Roland Lehoucq. Et des biologistes et des astronomes ont fondé une discipline... L'exobiologie, qui n'est pas encore strictement observationnelle à l'heure actuelle, c'est le moins qu'on puisse dire, mais enfin qui est bien une discipline. Donc, en l'espace d'une génération à peu près, les points de vue des scientifiques, parce que Luminet, parce que Audouze et parce que bien d'autres avaient lu de la science-fiction, ont changé. Donc, ce n'est pas rien. Je ne crois pas du tout, en revanche, que les auteurs de science-fiction aient à apporter des idées ou des concepts, c'est souvent la question qu'on me pose, aux scientifiques. Il n'en est pas question. Mais, en ce qui concerne un certain nombre de problématiques, leur fréquentation de cette mauvaise littérature a fait évoluer leurs idées.
Alors, on parlait de postulat tout à l'heure avec Roland Lehoucq. Finalement, dans le cas que vous évoquez, celui de l'exobiologie, il y a un travail qui est fait par les spécialistes de la matière qui reste à complètement construire. C'est de changer de postulat. Pour l'instant, on pense que la vie, la biologie, c'est de la lumière, de l'eau, de la température, une pression, du carbone. Et on se dit, changeons les paramètres, changeons les ingrédients en quelque sorte, et puis peut-être qu'on va trouver une autre forme de vie. Alors complètement, c'est un peu ce qui se passe, n'est-ce pas ? Cher Arclin, c'est un peu ce qui se passe ?
Oui, non, pas vraiment. Pas vraiment. Bon. En fait, l'idée qu'il pourrait y avoir d'autres bases que le carbone, par exemple le fluor à la vie, est une idée déjà ancienne et utilisée d'ailleurs dans la science-fiction. En tout cas, c'est ce qui se passe plus ou moins en permanence. Mais c'est pas une révolution récente. Hein. Ça remonte à une cinquantaine d'années. À
oui,
peu près,
mais on creuse ça et à la limite on pourrait faire des manips.
Depuis l'expérience Duray, c'est ça. On en a fait des tas et on en fait à l'heure actuelle toujours.
Et puis on fait même des découvertes dans des fonds avec une température et des pressions particulières.
Oui, alors on a trouvé des organismes vivants extrémophiles. Qui vivent dans des conditions qui paraissaient complètement invraisemblables auparavant, enfin, autour de, pour faire simple, de sources chaudes en grande profondeur. Là, on est assez proche de choses que décrivaient des écrivains de science-fiction, fortement frottés de science, d'ailleurs. Je pense à l'Américain Hall Clement.
Bien, Ian MacDonald, je vais en venir à vous pour l'instant. Dans les œuvres récentes pour nous, hein, que j'ai évoquées, il y a quelque chose qui est assez frappant, c'est l'idée qu'il existe des entités qui sont à la fois des ordinateurs et des intelligences artificielles et qui se révoltent, qui se rebellent. Alors on a déjà vu ça dans l'œuvre de Arthur C. Clarke, n'est-ce pas, 2001 Odyssée de l'espace, on a déjà vu cet ordinateur qui se rebelle. Est-ce que là aussi c'est un postulat que vous posez et qu'est-ce qui vous permet d'interroger sur l'intelligence elle-même au fond, parce que c'est ça.
Yeah, I think my I'm getting terrible feedback here. That's better. My thinking on that was the book you're referring to is River of Gods, Le Fleuve des Dieux, which is set in India in 2047. The kind of science fiction I'm writing, or have been writing, tends to focus very much on the near future in this world, because I'm interested in the ways that different technologies we have now, the way that those technologies might evolve, and how people live their lives around them. Because for me, the thing about science fiction is, when I was a kid, I grew up reading popular science books. Isaac Asimov, in many ways, was a better science writer than he was a science fiction writer. His popular science books were very clear and gave you a real sense of how reality worked. And I think as a kid reading these, I think my next thing was to ask the question, what would it be like? You know, he wrote a book about the solar system, and as a kid I was thinking, well, what would it be like to be out there in the solar system? And that is what science fiction for me answers, the what would it be like, what will happen if. Science fiction brings the characters and the people into those magnificent setups we get from popular science. And what I was trying to do to answer the question, what I was trying to do in River of Gods was to take the concept of artificial intelligences, which is pretty familiar, I mean, we're all fairly familiar with it, and put it somewhere we'd never seen it before, which was India in the near future. And the more I kind of wrote it and thought about it, the more I kind of saw that actually that what was evolving was a particularly Indian form of artificial intelligence that kind of grew up the same way as the Hindu pantheon of gods, grew up with lots of little, with thousands of tiny individual gods, then gods above them, then bigger gods above them, then the big three at the very top. And I just like the idea of exploring artificial intelligence through a kind of Hindu perspective.
Merci beaucoup. Alors, on va en venir à vous, s'il vous plaît, David Morin-Hulman. Quand je vous ai présenté tout à l'heure comme quelqu'un qui effectuait des recherches sur les superstructures de l'imaginaire, ou des imaginaires, ça implique qu'il peut y avoir éventuellement des infrastructures. Expliquez-nous un peu quelle est l'architecture qui finalement sous-tend, supporte, contient l'imaginaire. Et quand on est devant du travail de science-fiction, comme quand on est devant du travail de science, on va le creuser après, qu'est-ce qui joue un rôle dans l'émergence d'un concept ou dans la compréhension d'un concept?
Alors, en fait, pour revenir aussi à un tout petit peu à Roland, j'essaie de faire, nous faisons, ce qui est amusant, c'est que nous faisons un peu la même chose, et la même chose aussi avec les auteurs de science-fiction, nous faisons des expériences de pensée. Les expériences de pensée ont été développées notamment par Galilée, etc. Mais nous nous demandons ce qu'il y a en face de nous, et nous donne quelqu'un qui fait de l'anthropologie des imaginaires, lui se demande si ce qui est en face de lui, c'est le saisissement du monde, le saisissement de la réalité. Et là, si nous sommes dans le saisissement de la réalité, nous serons du côté des sciences dures, nous serons du côté de la technique et de saisir le monde pour essayer de le comprendre, le prendre avec. Et par exemple, parfois, quand je travaille sur des cochonneries sociologiques comme le docteur House, j'essaie de comprendre aussi, moi, du coup, s'il y a saisissement de la réalité ou si c'est un dessaisissement. Et dessaisissement, c'est ce que fait la fiction, c'est-à-dire qu'on essaie de se dessaisir de notre monde pour sortir de notre être, de notre personne, partir, voyager, toutes les expressions que peuvent justement prendre la science-fiction.
Mais en même temps, il y a une réalité sous-jacente de cette fiction. Il y a toute une école de pensée là-dessus, et puis de plus en plus claire.
Alors, je ne sais pas exactement ce que vous voulez me faire dire, mais
rien d'autre, je voudrais juste vous tendre peut-être une formule de Mauriac, François Mauriac. Seule la fiction ne ment pas. Elle entr'ouvre sur la vie d'un homme une porte dérobée par où se glisse, en dehors de tout contrôle, son âme inconnue. Wow.
Oui, alors c'est justement ce que j'appelle ici, de façon peut-être un peu pédante, mais dessaisissement.
Voilà.
C'est-à-dire que vous essayez de sortir de vous-même, vous essayez de sortir de la société, vous essayez de sortir de votre personnalité, j'appelle ça être, l'être social. Enfin, et puis vous essayez de sortir, en fait, simplement de voyager, de sortir de votre tête.
Et en se dessaisissant, on se révèle.
Alors, c'est ce que justement dit la Mauriac, vous allez vers l'émotion. Ce qu'on a entendu ce matin, et ce qu'on entend encore aujourd'hui ici, c'est le rapport, le petit tiret entre science et fiction qui est intéressant, c'est l'émotion, le rapport entre la science, qui a ce qu'on appelle l'esprit de science, qui est derrière la science, c'est autre chose que la science, c'est-à-dire qu'en fait c'est la rationalisation du monde, et pour certains sociologues c'est la bureaucratisation du monde. Donc en fait la méthode qui devient quelque chose d'essentiel pour l'humanité, donc la méthode pour tous, et la même méthode, c'est-à-dire celle de l'Europe et de l'Occident. Et puis de l'autre côté, vous avez le tiret, enfin de l'autre côté de la frontière, de l'autre côté du tiret, vous avez la fiction qui utilise pourtant les mêmes méthodes, mais pour critiquer la méthode. C'est-à-dire Alan Edgar Poe est à la fois celui qui invente le policier et le fantastique, mais qui donne aussi à des scientifiques certaines bonnes idées pour avancer. Et Alan Edgar Poe est évidemment quelqu'un qui n'était pas un scientifique, qui était quelqu'un qui critiquait la modernité en étant moderne.
Vous êtes en train de nous dire que cette copule, le trait d'union là, c'est indispensable parce que la science ne peut pas aller sans la fiction et la fiction ne peut pas aller sans un minimum de science, qu'elle soit dure d'ailleurs ou qu'elle soit molle, parce que vous êtes plutôt sur des sciences molles, mais Dieu sait si elles sont sciences.
Bah, par exemple, je reprends encore tout le monde connaît, que ce soit Dr House ou le mentaliste, c'est justement une question de la capacité qu'a l'esprit humain de comprendre l'esprit humain. Quand le mentaliste nous dit qu'il a gagné, ou quand Dr House il dit « j'ai encore réussi », il dit « l'esprit humain, l'orgueil, l'hubris, quelque chose de l'ordre de la démesure, dit peut-être que c'est l'orgueil, peut-être que c'est l'hubris, mais au moins je fais avancer les choses, au moins je peux sauver les gens ». Et quand le mentaliste nous dit aussi « je sais qui vous êtes avec les lois de la gravité et plus quelques principes de psychologie », ça veut dire que nous sommes lisibles, visibles. C'est assez intéressant parce que ça va aussi avec la démocratie. La démocratie qui n'est pas non loin de la science-fiction, quelque chose de l'ordre de « nous sommes égaux ». Et la science-fiction, avec un monsieur que j'aimais beaucoup qui s'appelle Guy Lardreau, c'est une philosophie d'opinion, c'est-à-dire une philosophie de démocrate, une philosophie de démocrate pour les démocrates.
Et nous sommes peut-être égaux aussi devant la créativité, d'ailleurs. Roland Lehoucq, finalement, on va utiliser cette méthode de questionnement simple, simplissime. Vous savez, qu'est-ce qu'il y avait avant l'œuf ? Il y avait une poule, ou avant la poule, il y avait un œuf ? On va l'appliquer à notre histoire. Quelque chose qui est une science, quelque chose qui est avéré, qui est mesuré, etc., jusqu'à ce qu'on prouve le contraire. On a l'exemple de la vitesse de la lumière, là, en ce moment, qui nous secoue un peu les puces.
C'est pas encore avéré que
non, c'est pas encore avéré,
lumière,
mais bon,
je vous rassure.
Qui nous pose des questions.
C'est un truc italien, c'est ça.
Alors,
c'est des aéroports italiens.
Simplement, avant qu'il y ait une idée scientifique, un concept scientifique qui soit avéré, il y a quelque chose que je vais appeler une intuition à vérifier. Il y a un imaginaire qui commence à fonctionner, n'est-ce pas?
Bien sûr, les scientifiques ont besoin d'avoir un imaginaire développé pour élaborer leurs théories, pour comprendre le monde, pour interpréter le monde. Alors, on pourrait même dire que d'une certaine façon, auteurs de science-fiction et scientifiques auraient besoin mais créateurs en général, c'est pas propre à ces deux groupes-là, ont besoin d'un imaginaire aussi grand que possible pour créer des choses aussi nouvelles et aussi intéressantes que possible. Simplement, ce qui différenciera la sélection entre les choses intéressantes et les choses pas intéressantes, les critères qui vous feront dire cette œuvre est intéressante ou cette œuvre n'est pas intéressante, ce ne sont pas les mêmes entre la science-fiction et la science.
Là, il y a un jugement esthétique d'un côté.
La science, elle a son propre fonctionnement qui dit, qui structure la façon dont on va décider que cette théorie est intéressante et que celle-ci ne l'est pas.
Qu'est-ce qui va emporter le...
Alors, ce qui emporte le morceau, évidemment, un point important, c'est l'adéquation de votre proposition aux expériences et aux observations du monde réel. Donc si votre théorie n'est pas déjà capable de rendre compte des observations et des expériences que vous faites, alors au moins un sous-ensemble, au moins un sous-ensemble, et évidemment, idéalement, le plus grand nombre possible d'expériences, mais si vous avez besoin d'autant d'explications que d'expériences, vous ne faites pas de la science. La science, elle essaie d'avoir le minimum d'explications pour le maximum d'expériences. Et toujours, une nouvelle théorie ne rend pas la précédente caduque en la déclarant fausse. Très souvent, elle la rend caduque en l'intégrant, en l'ingérant dans elle-même et en la considérant non plus comme générale, mais comme un sous-ensemble d'une théorie plus large qui a vocation à expliquer plus de phénomènes et qui a un champ d'application plus large.
Donc on peut appeler ça une exigence de cohérence, là aussi.
Il faut que ça soit cohérent entre... Quand on fait de l'astrophysique, par exemple, les astrophysiciens, je pense, ne font pas de théorie au sens des physiciens de laboratoire. Parce que les astrophysiciens observent seulement, ils ne font pas d'expérience. Et donc quand un astrophysicien propose une description, un scénario du monde, de la cosmologie, de la formation d'une étoile, de la façon dont une galaxie évolue et interagit avec d'autres galaxies, il va vous proposer en fait un scénario qui soit de cohérence maximum entre, d'une part, les observations qui sont faites et, d'autre part, la physique terrestre d'ici et maintenant. Et je dis bien d'ici et maintenant parce que les objets observés par les astrophysiciens, pour certains d'entre eux, sont si éloignés dans le temps, dans l'espace, plutôt qu'ils sont extrêmement éloignés dans le temps. Le temps que la lumière qui nous en parvient arrive, il s'est passé parfois des milliards d'années. Et donc, il faut faire une hypothèse qui est les lois de la physique sont les mêmes ici et maintenant et ailleurs dans l'espace et ailleurs dans le temps. Et on remarquera que, ça, je dirais d'une certaine façon, ça ne pouvait pas être autre chose qu'un astrophysicien qui fait le travail que je fais. Je prends ces œuvres de fiction, je les regarde, elles sont dans un autre espace, dans un autre temps, que je ne connais pas, et qui n'a même pas besoin d'être précisé. Je fais l'hypothèse qu'elles ont les mêmes lois que moi, et avec cette hypothèse, je les analyse en essayant d'être cohérent, d'être plausible entre ce que je vois et ce que je sais de notre monde.
Vous avez l'air de n'être effleuré par aucun doute à aucun moment. Il n'y a pas du tout un moment où vous dites « purée, il y a un truc là qui pourrait bien... »
Ah ben, bien sûr. Non. Regardez les neutrinos, il y a un doute. Quelque part, il y a un doute. Est-ce que cette expérience est juste? Ou est-ce que si cette expérience est juste, il n'y a pas donc un doute sur la théorie? Donc évidemment, les scientifiques, ce ne sont pas des gens qui sont dogmatiques et qui vont dire « la science, c'est ça, la vérité ». La science, en fait, ne déclame pas la vérité. Elle ne vous dit pas ce qui est vrai. En fait, la science dit... ceci est faux ou ceci n'est pas juste comme on le croyait avant et il faut réviser son jugement. Et ce que je propose pour réviser votre jugement a un statut de vérité entre guillemets temporaire qui sera révisé ultérieurement. Ça va prendre 1 an, 10 ans, parfois dans le cas par exemple de la théorie aristotélicienne du monde, ça a pris 20 siècles, donc des fois ça peut être un peu long. Eh bien, cette théorie sera peut-être révisée plus tard. Donc la science ne dit pas la vérité, elle dit ce qu'on ne peut plus croire ou ce qui n'est plus juste.
Oui, heureusement, on n'est plus à l'époque de Galilée où il a été obligé, de, en tant que scientifique, de dire mais pourtant elle tourne, mais il avait.
Oui, parce que là, après, il y a eu une interprétation de deux pratiques, une pratique scientifique émergente avec ce que Galilée faisait, et puis une autre pratique de connaissance du monde ou d'appréhension du monde ou de représentation du monde qui était la théologie et autre chose. Donc ces deux-là se sont collisionnés.
Une autre réalité aussi.
Et il y a eu un hiatus.
Gérard Klein, vous êtes au contact des écrivains, vous êtes écrivain vous-même. Vous observez les scientifiques, vous êtes au contact des scientifiques également. Même question pour vous que celle que j'ai posée tout à l'heure à Roland Lehoucq sur qu'est-ce qu'il y a avant le concept scientifique ou la loi scientifique découverte, avérée, etc. Qu'en est-il de la fiction avant qu'elle ne commence à exister? Comment est-ce que ça fonctionne, cette histoire? Est-ce qu'il n'y a pas là aussi, à défaut d'une intuition, autre chose? Qu'est-ce qui se passe dans la tête de l'écrivain et qui fait que d'un seul coup, le roman est en train de prendre forme et au fond, il existe presque en entier dans sa première forme?
Oui. La première remarque que je voudrais faire, c'est que comparé aux scientifiques en particulier, évidemment aux écrivains de science-fiction, les écrivains de littérature générale qu'il m'arrive de lire me semble manquer totalement d'imagination. Et en plus, comme sociologue et comme psychologue, je crains souvent qu'il ne manque d'information. Donc la littérature générale, prix littéraire ou pas, balancez-la, lisez
Badabou.
De la bonne science-fiction.
Badabou. Si vous avez envie d'applaudir, allez-y, mais bon.
Bon. Alors, qu'est-ce qui est à l'origine d'une histoire ou de l'ensemble complexe d'idées qui aboutit éventuellement à un bon roman de science-fiction? Il y a beaucoup de mauvais aussi, je vous rassure tout de suite. Je crois que c'est la rencontre tout à fait aléatoire d'une image, d'une idée, enfin de quelque chose. Il n'y a pas d'avant, ou plus exactement cet avant qui est logé dans l'inconscient, il n'est pas accessible. D'ailleurs, s'il était, on pourrait supposer qu'il y a un avant à l'avant, enfin, et ainsi de suite. Donc, il y a, à un moment donné, l'envie qui saisit un écrivain de raconter quelque chose, et puis qu'il passe à l'acte. Avec beaucoup de scientifiques, il m'est arrivé de discuter de cette question, d'une manière ou d'une autre, et il y a, mais c'est une toute petite partie du travail scientifique, alors que c'est une grande partie du travail de l'écrivain, il y a dans le travail scientifique un petit moment où l'imagination, c'est-à-dire un changement de frontière, enfin un changement de règle, joue un très grand rôle. Mais ensuite, l'essentiel du travail, quand cette intuition ou cette imagination est arrivée à partir de connaissances péniblement élaborées auparavant, quand donc c'est arrivé, il va s'agir de vérifier et d'interroger l'univers pour voir si, comme il fait souvent, il ne dit pas non. C'est ça le critère.
Donc en fait, vous êtes en train de nous parler de la deuxième phase qui est celle de la mise en cohérence, c'est-à-dire cette espèce de mécanique implacable qui fait que si ce n'est pas possible, ça ne sera pas possible et que tout l'édifice s'effondrera.
Je ne crois pas que la mise en cohérence est évidemment quelque chose d'important, mais je ne crois pas que ce soit fondamental dans le travail scientifique.
L'ensemble de l'écrivain. On parle de l'écrivain.
Ah, de l'écrivain.
Oui.
Écoutez, je suis en train de travailler beaucoup sur Philippe K. Dick et la mise en cohérence n'est pas toujours son premier souci.
Bon. Eh bien, on taille des costumes, c'est bien. Parfait. Merci beaucoup. Ian McDonald, s'il vous plaît, est-ce que vous pouvez mettre votre écouteur? Moi, je vais mettre le mien aussi. Pour essayer de cerner un peu les mêmes problèmes que ceux que j'ai tendus à Gérard Klein, pourquoi est-ce que vous êtes projeté en Inde? Pourquoi à ce moment-là? Pourquoi avec ces préoccupations-là, alors que vous aviez quand même essayé toute une... Enfin, c'est assez manifeste dans le début de votre œuvre, de vous surfiez sur un peu les problèmes de l'Irlande, ces difficultés de vie entre communautés, avec des croyances différentes. Au fond, on peut peut-être retrouver la même chose, mais vous avez eu besoin de plus d'amplitude, d'un autre lieu, d'un autre décor.
Are you suggesting that kind of whenever peace came to Northern Ireland, I was looking for violence somewhere else. I had a kind of quota of violence in my life. No. Le Fleuve de Dieu and Brazil and the forthcoming next year novel, The Dervish House, are all part of what I call the New World Order sequence of books, which I very deliberately set out to write in 1999. And because I was getting fed up with the view that the future will always be told through Western voices, and we'll be seeing white faces all the time. It was a very simple observation. I was watching Star Trek, the original series of Star Trek, and I thought, when did you ever see anyone from India on Star Trek? Not a single person from India in Star Trek. Because for all its kind of claims to be kind of racially tolerant and international, Star Trek was always just about the United States and United States geopolitical concerns. So there's Japanese there, there are Russians, but there's no one from India, and only one token, and only one token African, who's Uhura, whose name doesn't even make sense in Swahili. And I've been thinking for some time that it was William Gibson, this great cyberpunk writer who wrote Neuromancer, once said that the future's here, it's just not evenly distributed. Well, I thought about that and I thought, no, actually, Bill, you are completely wrong. The future is fairly evenly distributed. As soon as we get our iPhone 4S in the West, they get the iPhone 4S in Nigeria, they get it in India, they get it in China, they get it in Indonesia. So these days, we all get the same technology at the same time. We just do different things with it. And I was very interested in how other cultures, other societies, important developing nations, India and Brazil are big, important developing nations. Turkey is kind of a big regional power. How they would kind of express and interpret and find uses for the technology that we, you know, how they would use the how they would use these technologies, how their culture and their history would kind of impinge upon them, and that for me was much more interesting than exploring, you know, another novel set in the U.S. Because to me, as a writer from Northern Ireland, the United States is as foreign a country as India is.
Yann, est-ce qu'il n'y a pas une espèce d'automatisme? À partir du moment où vous avez posé un fait nouveau, il y a quelque chose de mécanique qui s'ensuit. C'est-à-dire que, on pourrait le dire d'une autre manière, quand on regarde la réalité du monde actuel, on voit ce qui peut y advenir d'ici 10, 15, éventuellement 20 ans.
Yeah, I was saying on an earlier panel, one of the great things about science fiction is that it doesn't predict the future. And in fact, a fairly good way to predict what the future will be like is whatever science fiction novels we're writing about the future in 15 years' time, that future will be the exact opposite of what we're writing about. For example, the world we live in today in 2011 is the exact opposite of what Arthur C. Clarke predicted in 2010, actually, in many, many ways. So I think the future will always surprise us, but it's not science fiction's job to predict the future. It's to show us humans, human beings, human emotions, human values in contact with change and with science and with technology. That for me is what makes it an interesting and worthwhile way to thing to write.
Merci. David, est-ce que vous pouvez reprendre un micro? Finalement, on va se poser la question de savoir si d'un seul coup, les sociétés ne vont pas être interloquées par un nouveau concept scientifique ou une nouvelle réalité scientifique ou une nouvelle loi que les scientifiques nous apportent ou une nouvelle technologie. Donc, être un peu impressionné, envisager tout de suite ce que l'avenir va... ils vont pouvoir en faire ou comment ça va impacter leur avenir. Et à l'inverse, est-ce que finalement c'est pas la même chose, ou plutôt est-ce que c'est pas la même chose pour l'écrivain de science-fiction qui va se dire ah ça d'un seul coup ça lui ouvre un champ extraordinaire pour son œuvre, une espèce de champ de résonance dans l'un et l'autre cas.
Alors je pense que nous ne voyons que des tout petits bouts. Parce que justement nous sommes finis et des êtres finis, donc des êtres tout petits, donc le scientifique ne voit jamais qu'un petit bout, les auteurs de science-fiction ne voient qu'un petit bout, et puis les social scientists, comme on peut dire pour les anthropologues, etc., ne voient aussi qu'un tout petit bout de quoi ? De la lorgnette. Alors pourquoi aussi ne voient-ils qu'un tout petit bout ? Comme je disais, parce que nous étions finis, mais parce que notre civilisation, donc là il y a eu un coup sur la résistance à l'Occident, enfin la résistance à la mondialisation, etc. Mais c'est que nous devons choisir entre le visible et l'invisible. Sauf que l'écriture est elle-même ce qui rend visible l'invisible ou qui rend invisible le visible. C'est pour cela que l'écriture donne déjà la religion et donne évidemment la fiction. L'écriture, c'est un signifiant flottant, quelque chose comme, justement, on voit bien dans... Enfin, bref, un signifiant flottant, quelque chose qui nous permet de tout y mettre. Et le symbole permet de tout y mettre. On y met ce que l'on veut. Donc, par exemple, pour 2000 ans au-dessus de l'espace, le bétil, la grande pierre noire, vous y mettez ce que vous voulez. Il y a plein de théories dessus, mais c'est un signifiant flottant. Quelque chose qui apparaît, vous dites que c'est Dieu, sont les extraterrestres, c'est la conscience humaine qui se voit elle-même, etc. Quelque chose de flottant. Et donc, ce qui est bien dans l'écriture, c'est que vous pouvez y mettre ce que vous voulez. Donc, en fait, à partir du moment où l'homme a commencé à écrire, il a évidemment aussitôt cru à des choses invisibles, puisqu'on vous montre, si je vous dis le mot chien, mais il faudrait que je l'écrive, si j'écris le mot chien, vous voyez un chien, alors qu'évidemment, il n'est pas là. Et donc, là, c'était, donc, je vais dire une petite chose qu'il ne faut pas que ça fasse mal, mais le mot Dieu, si je l'écris le mot Dieu, il est à la fois présent et absent. D'ailleurs, chez les catholiques, c'est très bien, parce qu'il y a eu une incarnation avec le mot Jésus et la présence de Jésus, vrai homme, vrai Dieu. Et pour les auteurs de science-fiction et pour les auteurs en général, ça nous permet justement de faire de la fiction, tout court. C'est-à-dire que l'écriture est un trou dans le réel, quelque chose qui nous fait passer de l'autre côté, qui nous fait voyager. Alors, si je peux me permettre juste de faire un tout petit schéma comme ça mental, il y a notre réalité, les symboles qui sont comme un seuil, une porte, et puis l'imaginaire. Et en fait, pour aller de l'autre côté de l'imaginaire, eh bien, il faut prendre toujours cette porte.
Il faut passer par les symboles.
Il faut toujours passer par les symboles. Et ce qui est amusant, c'est qu'en fait, à partir du moment où l'homme a fabriqué, donc seul, enfin, l'homme, à partir du moment où le temps a fait les choses, eh bien, nous sommes baignés par l'imaginaire. Et ce qui est intéressant, comme cette réunion et les 12 ans de travaux et ici, c'est que l'imaginaire, en fait, a complètement pris la réalité, et nous ne pouvons plus faire autrement que de comprendre l'imaginaire pour essayer de comprendre et les symboles et surtout la réalité.
Alors, si on vous suit bien, tout le monde écrit, peu ou prou, puisqu'on prend cette porte, etc. Est-ce que les scientifiques en font de même? Est-ce qu'on peut dire que eux aussi, ils écrivent? Répondez donc à ça, puis je vais après demander à Roland.
Mais oui, ils écrivent, puisque...
Mais ils écrivent comment? Avec quel symbole?
Justement, les symboles mathématiques.
Et pourquoi?
Les symboles mathématiques, les symboles physiques sont évidemment une écriture de l'invisible. À partir du moment où vous écrivez, vous êtes dans l'invisible. Vous faites un trou. Vous creusez. Alors, on peut voir dans l'univers avec. Et c'est ce que font justement les scientifiques. Ou on peut voir à l'intérieur de soi. Et c'est ce que font les auteurs. Ou c'est ce que faisaient les religions. Ou c'est ce que font encore les religions.
Est-ce que vous êtes en train de dire que finalement tout ça, c'est le même mouvement à l'intérieur de ce qu'on va appeler l'esprit humain?
Exactement, c'est ce qu'on appelle...
Avec les mêmes codes, les mêmes mots, voilà, les mêmes symboles.
Voilà, donc quand on parle d'anthropologie, c'est essayer de comprendre à la fois l'humain d'un point de vue géographique et historique. Et là, vous avez quelque chose qui s'appelle la symbolisation. Et la symbolisation, c'est l'anthropisation, le devenir humain. Donc quand Roland fait de la science... Quand les auteurs font de la sociologie, de l'anthropologie ou de la science-fiction, c'est du devenir humain. Et être ici et écouter ce qu'on est en train de dire et repartir et aller faire la cuisine, c'est du devenir humain. C'est-à-dire trancher, se séparer de l'animalité. Mais évidemment, il y a quelque chose qui reste.
D'animal. Alors, même question, Roland, est-ce que les scientifiques écrivent aussi? Est-ce qu'ils utilisent des symboles? Est-ce qu'ils essaient de garder des symboles secrets?
Non, on n'est plus à l'époque de Pythagore où les secrets étaient bien gardés. Évidemment, ils utilisent des symboles, ils utilisent leur langue, le français, l'anglais, enfin leur langue naturelle, leur langue maternelle bien sûr, mais ils utilisent aussi une langue qui est commune aux scientifiques, qui sont les mathématiques. Et ça reste toujours assez mystérieux la raison pour laquelle les mathématiques sont si efficaces pour décrire le monde. Néanmoins, en utilisant cette langue commune à tous les scientifiques, quelle que soit du coup leur langue maternelle, les scientifiques arrivent à dire des choses que les langues maternelles, que les langues ne disent pas. Et donc toute la difficulté de la diffusion des connaissances, qui n'est pas propre du coup aux Français, qui est propre à n'importe quel scientifique qui doit exposer ses sciences en langue naturelle, c'est qu'il doit s'abstreindre des mathématiques qui disent les choses au plus près du monde tel qu'il semble être, en tout cas tel qu'on peut le décrire au mieux avec les mathématiques. Ils doivent le dire dans une langue qui n'ait pas été celle qu'ils ont utilisée pour décrire ce monde. Avec pour conséquence qu'ils parlent d'une chose dans la langue qui n'est pas adaptée à parler de cette chose. Donc la difficulté, elle est là, essayer de transcrire en langue naturelle ce qui est écrit en langue naturellement pour le monde, naturel pour le monde, en langue naturelle pour les humains.
Alors, il y a plus complexe. Maintenant, il y a les scientifiques qui écrivent de la science-fiction.
Alors après, il y en a...
Et quand on écoute David, il nous dit finalement l'écriture, c'est une façon de cacher le réel. C'est au fond, pour le scientifique, une façon de cacher sa difficulté qui est d'avérer, tout le temps contrôler.
Certains qu'en science, on peut encore une fois imaginer tout ce qu'on veut.
Il y a Étienne Klein qui fait ça. Enfin bon, il y a...
Bien sûr. Voilà. La méthode scientifique, elle est relativement simple. Vous pensez, vous imaginez ce que vous voulez, mais si vous vous prétendez scientifique, vous devez vous plier aux fourches codines de la réalité. Si vous écrivez de la science-fiction, vous écrivez ce que vous voulez.
Vous faites la réalité à ce que vous la conformez comme
la réalité,
vous voulez.
Au sens expérimental et des observations que vous faites. C'est une réalité. Alors après, on pourrait discuter les ombres de Platon et tout ça, mais bon, Il y a des choses qui se passent devant vous, spontanément ou de façon forcée. Vous faites l'expérience pour voir comment ça se passe. Vous sollicitez votre monde. Vous observez votre monde et vous construisez une représentation de tout ça grâce aux mathématiques qui, pensez-vous, décrit le réel. Alors après, il y aurait toute une discussion sur le réel existe-t-il. La science-fiction, évidemment, a interrogé ça. Dick, dont on parle, il a interrogé ça de manière extrêmement précise. Ce serait tout un débat. En tout cas, voilà, la science imagine ce qu'elle veut, mais elle doit se plier aux fourches codines de l'observation et de l'expérimentation.
Vous avez évoqué à l'instant l'ombre de Platon. Je ne sais plus dans lequel des dialogues, mais il y a Socrate qui répond au moment où il est en train de mourir après avoir ingéré la ciguë à un de ses disciples qui demande « Mais pourquoi tu as fait ça, Socrate? Pourquoi tu as écrit des poèmes? Pourquoi est-ce que tu as enseigné ?» Et il répond « Je l'ai fait sur l'ordre d'un songe. Sur l'ordre d'un songe. » Est-ce que vous, le scientifique, vous ne faites pas ce que vous faites sur l'ordre d'un songe? Est-ce que vous, les écrivains, vous ne faites pas sur l'ordre d'un songe? Et après, on verra ce que David nous en dit.
Je ne sais pas pour le scientifique en général. Pour moi, je sais, c'est, on pourrait dire que c'est l'ordre d'un songe, mais c'est l'ordre de vouloir comprendre l'incroyable et stupéfiante noirceur du ciel ponctuée de points brillants et qui est quand même un spectacle juste hallucinant. Et soit on tombe en adoration, soit on essaie de comprendre. Moi, j'ai choisi la voie de la compréhension. Je ne suis pas sûr d'avoir toujours réussi, mais c'est la voie.
Gérard Klein, quelle est votre réponse à cette question-là? Est-ce que vous, écrivain, ou est-ce que les écrivains que vous publiez pourraient répondre comme Socrate, je l'ai fait, j'ai écrit ça, sur l'ordre d'un songe ou pas?
Sur l'ordre de quoi?
Sur l'ordre d'un songe, ce que disait Socrate.
En tant que psychanalyste ou quasi-psychanalyste, je vous dirais évidemment oui.
Bon,
et en tant que psychanalyste, je vous répondrai immédiatement non.
Bon, très bien. Yann, vous écrivez sur l'ordre d'un songe, vous aussi?
No, I don't write because of a dream. I write what I dream.
Alors le rêve, le songe, on pourrait les classer parmi les synonymes. Votre arbitrage.
Bien, je dirais simplement que Socrate, s'il vivait aujourd'hui, il dirait parce que c'est rock'n'roll.
Oui.
C'est-à-dire, non mais je voudrais juste ajouter, c'est rock'n'roll, c'est-à-dire que vous faites les choses parce que vous cherchez la joie. Alors évidemment, la joie au sens spinozien, etc., mais la joie, ce qu'on appelle aussi simplement la présence au monde. Donc la façon d'être présent au monde pour Roland, c'est justement d'affirmer sa personnalité au bon sens du terme, affirmation positive, affirmation de soi, donc d'exister, de vivre, donc de jouir du monde en comprenant le monde. Après, pour les auteurs de science-fiction, pour les psychanalystes ou pour les autres et les gens, tout le monde, c'est aussi jouir de la vie. Donc faire du football, c'est une façon évidente d'être présent au monde quand vous marquez un but. Eh bien, quand un scientifique dit Eureka ou qu'un anthropologue comprend quelque chose, il fait comme quand il marque un but, ou alors parce que c'est rock'n'roll.
Yes. Bien. Alors, merci beaucoup. On n'a pas beaucoup de temps parce qu'il y a une table ronde qui s'ensuit. Est-ce que vous avez une ou deux questions à poser? S'il vous plaît, il suffit de lever la main et un micro qui vous arrive. À vous. Question courte à qui?
À l'ensemble de la table ronde.
Très bien.
Sur la question de la vulgarisation scientifique.
Oui.
Est-ce que vous pensez que la vulgarisation, et en particulier au travers de la science-fiction, peut présenter des dangers, des risques par rapport à la diffusion de fausses idées scientifiques?
Alors, Roland, vous répondez à ça si ça ne vous ennuie pas, parce que une question à l'ensemble de la table ronde, ça fait 4 réponses, et pour le temps, il ne faut pas que je le mange. Alors, allons-y.
Bah oui, enfin, il y a toujours un risque à parler devant des gens, à dire des choses, mais il y a pas
c'est qu'ils
ne
comprennent pas, en fait.
Oui, il y a des gens qui ne comprennent pas, mais quand on parle de science, il faut se rendre compte que le langage est piégé aussi. Si je dis force, énergie ou puissance, ceux qui savent de la science voient de quoi je peux parler, moi, comme scientifique. Les autres, ils vont imaginer des concepts communs et en tout cas semblables entre eux, probablement, et en tout cas très différents de ce que moi j'ai en tête comme scientifique. Donc même comme scientifique, on peut propager à son insu des idées fausses en n'essayant pas d'être très rigoureux sur le vocabulaire, en désignant pas... Bref, c'est compliqué d'être parfait. Et les scientifiques ne le sont pas, et la science-fiction ne l'est pas, mais tous les discours humains ne le sont pas en général.
Cette activité-là en particulier est dangereuse aussi?
Oui, enfin dangereuse, en ce sens qu'on peut toujours dire des choses et ne pas être compris involontairement.
Qui d'autre? Bon, écoutez, merci d'être... de vous satisfaire de cette table ronde qui était passionnante et qu'on aurait pu prolonger. On va conclure que oui, la science-fiction permet de mener des raisonnements scientifiques et de comprendre, etc. Surtout avec la méthode de Roland Le Houx. En tout cas, ça ne nous permet même pas de prédire l'avenir, parce que, comme disait Niels Bohr, la prévision, c'est extrêmement difficile, surtout en ce qui concerne l'avenir. Mesdames et messieurs, merci, vous les applaudissez.
Titanium steel when it strikes. And assess the situation. It's time to do my thing. Remain completely undetected. Lay strategic points with hyper pyrotechnics and start the countdown. I gotta be out now. I'm knowing my pace only slows for pressure point blows to foes as we slowly glide away. Both missions completed. Me and this honey and the ship heated. I got game and a sweet tooth with a cavity. So now I'm here in European skins and zero gravity.
phonématique. Money one barrow, two steady tune, no gala, no tomorrow. Them gala figure pop in my arrow, my head up like my nail was barrow. Touch for the body in a tree wheel barrow. They mix up.